Le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors, c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but.
Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Jacques Berthelot, enseignant-chercheur à la retraite, spécialiste des politiques agricoles, défenseur de la souveraineté alimentaire au nord comme au sud et observateur attentif des politiques d'échange mises en œuvre aujourd'hui entre l'Union européenne et l'Afrique. Il nous explique ce qu'il faut comprendre des accords de partenariat économique, APE, leur genèse, leurs conséquences à court, moyen et long terme. On comprend ainsi qu'il ne s'agit pas simplement d'accords préférentiels, de suppression de tarifs douaniers au nom de la libre circulation des marchandises, mais que ce qui est en jeu, réellement, c'est la souveraineté et plus encore la sécurité alimentaire de centaines de millions de personnes aujourd'hui et demain. Les APE ont pour principal effet de détruire des filières agricoles locales sur lesquelles la souveraineté et la sécurité alimentaire se construisent. Ils favorisent essentiellement un flux d'importation de céréales subventionnées par l'Union européenne à destination de l'Afrique et fabriquent au passage les conditions de l'exode rural dans le meilleur des cas quand ils n'alimentent pas directement les routes de l'exil à l'extérieur des frontières nationales. Alors les APE, c'est un sujet un peu pénible. Et cet épisode est assez laborieux. Il y a pas mal d'acronymes et de termes un peu techniques, mais on considère que c'est un peu un mal nécessaire. L'épisode a été enregistré à Dakar en février 2020, sur la terrasse d'Aurélie, que l'on remercie chaleureusement. On entend donc un peu les charrettes, les oiseaux, les motos, les moutons, les camions. On espère que ça ne vous dérangera pas trop. Bonne écoute. Jacques Berthelot, bonjour.
Bonjour Marie.
Alors vous êtes économiste, spécialisé dans le domaine agricole. Vous avez passé les 15 premières années de votre carrière dans des pays d'Afrique avant d'enseigner à l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse, l'ENSAT. Et vous avez publié des ouvrages pour décrypter les politiques agricoles. Donc j'en cite quelques-uns. « Les sillons de la faim » en 1980. « L'agriculture, talon d'Achille de la mondialisation » en 2001. En 2013, vous avez publié « Réguler les prix agricoles ». Et plus récemment, le dernier ouvrage dont on va discuter ensemble aujourd'hui, c'est « Vous avez dit libre-échange, APE, Union européenne, Afrique de l'Ouest ». Donc depuis 20 ans, vous consacrez votre retraite à analyser les enjeux des politiques agricoles pour des associations de solidarité internationale comme ATAC ou SOL. Et dans votre dernier livre, vous revenez sur les APE, donc les accords de partenariat économique, que certains nomment accords de pauvreté économique, voire de paupérisation économique, j'ai même lu accords de pendaison économique, qui sont donc les accords commerciaux, donc un cadre de traité, à partir desquels se déploient les relations commerciales à caractère soi-disant libre-échangiste entre l'Union européenne et les pays dits ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique. Alors l'idée donc de cet entretien, c'est que vous nous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit, parce que ce sont des questions très techniques, et vous allez nous éclairer sur ce que sont ces APE. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire dans quel contexte est-ce que on se trouve actuellement, fin février 2020, quelle est la genèse, qu'est-ce qui est venu avant ces accords dits APE, voilà.
Bon, ben alors, ce qui est venu avant, c'était la colonisation européenne, alors qui était partagé entre la colonisation française, la colonisation anglaise, la colonisation portugaise, même la colonisation espagnole en Guinée espagnole. Voilà. Et donc, en fait, depuis bon le début des indépendances, bon ce qui a commencé un peu plus tôt dans certains pays anglophones, donc autour de 55 par là, je crois. Ensuite, donc la grande majorité des pays francophones ont accédé à l'indépendance formelle en 1960. Et après, plus tard, donc les colonies portugaises, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Bon, alors. L'Union européenne, donc, après ses indépendances, donc, a décidé de maintenir évidemment d'étroites relations avec ces pays et, dans un premier temps, donc, a signé une convention donc, de Yaoundé en 1973. Et puis, avec l'arrivée donc, de la Grande-Bretagne qui est rentrée dans le marché commun européen donc, en 1973, elle a amené ses anciennes colonies aussi dans cet accord qui est devenu la convention de Lomé. À partir de 75, et donc maintenant, en fait, dans les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, il y avait aussi des anciennes colonies, donc dans les Caraïbes, hein, 15 pays, et puis et dans le Pacifique aussi une douzaine de petites îles. Bon, et donc, mais disons que ce sont essentiellement quand même les anciennes colonies d'Afrique subsaharienne qui constituent 94% de la population totale des pays ACP. Donc ce sont eux qui sont vraiment les plus importants. Bon. L'idée de l'Europe, c'était de soi-disant favoriser le développement de ces pays, mais aussi surtout favoriser le contrôle par elles donc de l'accès aux matières premières agricoles et minières et énergétiques donc de l'Afrique subsaharienne. Mais dans un premier temps, donc, dans les conventions, les premières conventions de Lomé, l'Union européenne a d'une part accepté d'importer sans droit de douane donc l'essentiel des produits, notamment agricoles. Hein, bon, pour les produits miniers, évidemment, sans droit de douane, mais pour les produits agricoles, il y a eu quelques limites à quelques produits, le sucre, les bananes, pour lesquels il y avait une période d'adaptation, et ce n'est que depuis 95 à peu près qu'il n'y a plus de contraintes, de limitations, de quotas, disons, de quotas d'importation. Mais il se trouve que à la fin des années 90, un certain nombre de pays producteurs de bananes d'Amérique latine, notamment les trois pays andins, Équateur, Colombie et Pérou, et six petits pays d'Amérique centrale, producteurs de bananes également, se sont plaints vis-à-vis de l'Union européenne. Nous aussi, nous sommes des pays en développement. Comment se fait-il que nous devons payer les droits de douane quand nous exportons nos bananes dans l'Union européenne, alors que les trois pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun, eux peuvent exporter leurs bananes sans avoir à payer de droits de douane. Donc, nous sommes tous des pays en développement, et il y a un principe au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui dit qu'il ne doit pas y avoir de discrimination géographique entre les pays. Et donc, de ce fait que l'Union...
C'est-à-dire de discrimination géographique?
C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de leur donner un traitement plus défavorable qu'aux pays d'Afrique, parce que, donc, sous prétexte qu'ils ne sont pas tous sur le même continent. Donc,
d'accord.
Donc, mais, alors, donc l'Union européenne, en fait, a accepté cette condamnation. Elle a été poursuivie et les pays d'Amérique latine ont gagné, ont fait condamner l'Union européenne, hein, comme quoi donc elle n'avait pas le droit de faire cette discrimination à l'encontre des bananes, disons, d'Amérique latine. Mais en fait, l'Union européenne aurait très bien pu refuser cette condamnation, parce qu'il y a un autre principe aussi qui dit que si la discrimination n'est pas possible au plan géopolitique, elle est possible en fonction du niveau de vie. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Union européenne elle-même, en 1971, a créé ce qu'on appelle donc le système des préférences généralisées, à partir duquel les droits de douane qu'elle impose aux exportateurs des pays en développement en général sont inférieurs à ceux qu'elle impose au titre de ce qu'on appelle la nation la plus favorisée. En général, donc, des importations venant des pays développés, quoi, qui ne bénéficient pas de traitement préférentiel. Mais l'Union européenne n'a pas voulu mettre en œuvre ce principe parce qu'elle était finalement très contente d'être condamnée. Parce qu'en étant condamnée, ça l'a obligée à changer le système et elle a créé en 2000 l'accord de Cotonou.
D'accord, et donc l'accord de Cotonou qui consiste donc...
L'accord de Cotonou qui établit un cadre des relations dans tous les domaines, bon, spécialement le domaine économique, entre l'Union européenne et ses anciennes colonies, donc les pays ACP. Mm-hmm. Et dans cet accord, donc l'Union européenne, du fait de sa condamnation sur la question des bananes, mm-hmm. elle a fait entériner par l'Assemblée de l'OMC qu'elle allait échanger ses relations, donc ce ne seront plus des accords préférentiels unilatéraux, mais ça devrait se transformer en accord de libre-échange. Mmh. C'est-à-dire donc dans lequel les pays ACP devraient eux-mêmes ouvrir leur marché aux exportations, donc sans avoir à faire payer des droits de douane sur les exportations de l'Union européenne vers l'Afrique subsaharienne.
Donc en gros, l'Union européenne a instrumentalisé la situation ou la décision qui a été prise par l'OMC. C'est ça ? Enfin, la plainte qui avait été déposée par les pays d'Amérique latine au sujet de l'exportation des bananes et du privilège qui était accordé aux pays d'Afrique Caraïbes-Pacifique qui n'étaient pas imposés au même niveau en termes de tarifs douaniers pour leurs exportations vers l'Union européenne. Donc l'Union européenne a instrumentalisé cette décision et l'a utilisée pour servir de base à la réforme, refonte du cadre dans lequel elle commerce avec les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, les pays ACP, pour imposer la baisse totale, voire la suppression de tous les tarifs douaniers dans le sens des exportations des pays d'Afrique vers l'Union européenne, comme dans l'autre.
Oui, oui, c'est-à-dire que la définition du pourcentage de droits de douane qui doit être éliminé, il n'y a pas de définition précise au niveau de l'OMC. Mais il y a un certain consensus selon lequel donc 90% des échanges d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire importation plus exportation, doivent être libéralisés. Libéralisés, c'est-à-dire donc ne plus avoir à payer de droits de douane. Mmh. Alors comme déjà en 2000, l'Union européenne importait, on peut dire sans droits de douane, 97% des exportations des pays ACP. Donc elle a dit, bon, je vais faire un effort, je vais pouvoir importer 100% des exportations, donc sans faire payer de droits de douane, pour arriver à 90% en moyenne, donc ce qui permet d'imposer l'ouverture aux pays ACP que de 80% de leurs importations. C'est-à-dire de 80% de ce qu'ils importent de l'Union européenne devra être libéralisé. C'est-à-dire devra ne plus être assujetti à des droits de douane. Mmh. Mais là, il y a une double... arnaque, on peut dire, bon, c'est que l'Union européenne avait aussi, en 2001, accordé aux pays les moins avancés, pas simplement des pays ACP, mais au niveau mondial, des pays qui se caractérisent par un niveau de vie très faible et un pourcentage élevé aussi des aspects sous-nutrition, des problèmes de santé, etc. Ce sont des pays donc, qui sont vraiment parmi les plus pauvres hein, au monde. Donc l'Union européenne avait accepté, dans la foulée de son système de préférence généralisée, d'accorder l'accès sans droit de douane à toutes les exportations des pays les moins avancés, y compris donc de ceux d'Afrique. Hein. Mm-hmm. L'Afrique de l'Ouest, ça comprend les 15 États de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et donc, l'APE, l'accord partenariat économique Union européenne Afrique de l'Ouest, donc avec ses 16 États, parmi lesquels il y a 12 PMA. Parce qu'il y a les
pays moins avancés.
Moins avancés. Et il y a trois États qui sont considérés comme des pays en développement, parce qu'ils ne sont pas moins avancés. Mm-hmm. Donc le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, mm-hmm. avec l'accord de libre-échange, enfin l'APE. L'Union européenne est en train de. En imposant que tous les États d'Afrique de l'Ouest donc, libéralisent, c'est-à-dire ouvrent leur marché sans pouvoir taxer à 80% de ce qu'ils importent de l'Union européenne. Est en violation évidente avec son engagement tout sauf les armes. Hein, c'était, on a dit un engagement tout sauf les armes par lesquels donc, les PMA ne sont pas obligés de ne plus taxer tout ce qu'ils importent de l'Union européenne. Donc,
j'ai pas compris ça. Donc, le traité tout sauf les armes.
Alors, enfin... on appelait ça tout sauf les armes, c'est-à-dire que c'est l'idée que la décision prise en 2000. Par l'Union européenne, en 2001, pardon, par l'Union européenne, d'importer sans droit de douane et de ne pas exiger que les pays, les PMA, soient obligés d'ouvrir leur marché, mais puissent avoir le droit de continuer à taxer tout ce qu'ils importent de l'Union européenne. Donc c'est 12 États, donc 13 avec le Cap-Vert, auraient pu normalement ne pas être obligés d'ouvrir leur marché aux exportations de l'Union européenne. Mais comme l'APE, donc Afrique de l'Ouest, donc l'Union européenne dit, mais si les États PMA n'étaient pas obligés d'ouvrir leur marché aux exportations de l'Union européenne, eh bien ça irait à l'encontre de l'intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait plusieurs systèmes de tarifaires qui, il y aurait les pays en développement, donc qui, eux, seront obligés d'ouvrir leur marché. Bon. Et puis les PMA qui, s'ils n'étaient pas obligés, donc il y aurait des problèmes au niveau des échanges à l'intérieur même de l'Afrique de l'Ouest.
Donc l'argument, c'est celui de l'harmonisation des tarifs douaniers. Pour faciliter les échanges dans les différentes zones
au sein de l'espace régional de la CEDEAO, voilà. Mais en fait, il aurait été tout à fait possible de dépasser cette contradiction apparente en suivant la proposition qui avait été faite par un ancien commissaire au commerce de l'Union européenne, Peter Mandelson, qui avait dit que on pouvait très bien, au lieu de fixer à 80% le taux d'ouverture, eh bien, on déduit le pourcentage des importations de l'Afrique de l'Ouest qui vient des PMA. Et cela, on les oblige pas donc à se libéraliser. Au lieu donc d'imposer 80%, comme ces 12 PMA, enfin 13 on peut dire avec le Cap-Vert, donc représentaient à peu près 45% des importations totales de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, au lieu d'avoir à libéraliser 80%, on retire les 45%. Et donc, ce qui fait que l'ouverture totale du marché de l'Afrique de l'Ouest n'aurait été que de l'ordre de 35%. C'était une possibilité juridique qui conciliait à la fois l'engagement, tout sauf les armes, d'exempter les PMA de l'obligation d'ouvrir leur marché, avec en même temps le fait que ça ne créerait pas différentes conditions tarifaires au sein de la zone. Mais pour des raisons évidentes d'intérêt commercial, la Commission européenne a refusé cet argument. Et ça aurait été la même chose en Afrique de l'Est, hein, ou l'Afrique de l'Est, où sur les 5 États de la communauté d'Afrique de l'Est, il n'y a que le Kenya qui n'est pas un PMA. Et donc là aussi, l'ouverture n'aurait pas été de 80%, mais aurait été de l'ordre de 40% à peu près.
Oui, donc vous voulez dire qu'en fait, d'autres accords auraient tout à fait, d'autres montages et modèles de tarification auraient pu être envisagés pour respecter les engagements.
Oui, vis-à-vis des PMA, hein, parce que leur imposer une baisse très forte
de leurs recettes, en fait, parce que ce sont des recettes fiscales, ce sont les recettes fiscales des États.
C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, disons, le secteur formel de l'économie est très limité. C'est-à-dire, c'est le secteur qui paye des impôts sur les sociétés ou des impôts sur le revenu des personnes physiques. Donc, l'essentiel des activités se font dans le secteur informel, qui ne paye pas, donc, qui n'est pas pratiquement imposé, qui ne paye pas de TVA, qui ne paye pas de... Et donc, l'essentiel des recettes budgétaires vient des recettes à la douane. Donc, aussi bien au niveau des taxes à l'exportation que des droits de douane à l'importation, plus la TVA. Et donc c'est vraiment un enjeu. Disons, une des conséquences très, très dramatiques des APE, c'est effectivement que ça va priver énormément de recettes budgétaires, donc ça va appauvrir les pays donc dans lesquels ces APE vont être mises en œuvre, parce que contrairement au discours de l'Union européenne selon laquelle elle apporte une aide financière donc pour la mise en œuvre des APE, ce qu'on appelle le programme du PAPED, hein, le programme d'appui aux APE, eh bien dans la réalité l'Union européenne a reconnu elle-même, la Commission n'a pas, la DG Commerce n'a pas voulu, la Direction Générale du Commerce n'a pas voulu le reconnaître immédiatement, mais ensuite elle a bien été obligée de le reconnaître, c'est que les quelques 6 milliards 500 millions d'euros qui sont accordés pour une période de 5 ans, donc pour la mise en œuvre de l'APE d'Afrique de l'Ouest, eh bien ça fait donc à peu près 1,5 milliard par an, ou 1,3 milliard par an, eh bien l'essentiel c'est vient de trois sources. D'une part, le Fonds européen de développement, la Banque européenne d'investissement et aussi les crédits budgétaires directs du budget européen, ou de la Commission européenne. Mais ces trois sources n'ont pas été abondées avec la signature des APE. Simplement, ces moyens, on a simplement changé l'étiquette. C'est 1,3 milliard d'euros, en gros, que chaque année l'Union européenne accordait déjà avant la signature des APE, sont toujours là. Il n'y a pas un euro de plus que ce qui avait été déjà programmé avant. Donc, il vient financer notamment les programmes nationaux et les programmes régionaux de développement de la zone.
Bon, donc en fait, ça reste quand même technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces APE, en réalité, donc ce sont des accords qui servent surtout les intérêts de l'Union européenne.
Absolument.
Et peut-être aussi des entreprises parfois basées dans les pays africains, mais qui ont aussi également intérêt à exporter sans droit de douane. Et dans votre livre, vous prenez l'exemple des bananes ou bien du thon ou des exportations de produits comme ça, qui sont en fait des entreprises de droit, que ce soit ivoirien ou sénégalais, mais qui en réalité sont des entreprises avec des capitaux français.
Oui, essentiellement.
Essentiellement.
Essentiellement, oui. On peut dire, par exemple, pour les bananes, c'est la compagnie fruitière, la compagnie fruitière qui est basée à Marseille, président Robert Fabre, qui possède l'essentiel des bananeraies de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Cameroun.
Oui.
Et qui,
jusqu'ici aussi, tout va bien.
Et qui possède aussi les navires bananiers qui les transportent en s'arrêtant au Sénégal pour placer un certain nombre de ces bananes. Bon, mm-hmm. Alors ça c'est pour les bananes, mais c'est la même chose. D'ailleurs, ils possèdent aussi peut-être un peu moins fortement
les ananas.
Les ananas, oui. Ouais. Et alors pour les conserves de thon. Là, les conserves de thon, c'est une société thaïlandaise, plutôt Thai Union, mais qui a des filiales donc en Europe et qui est notamment pour l'essentiel des miettes de thon que vous pouvez acheter dans les supermarchés de Dakar. Elles sont transformées par une conserverie petit navire qui se trouve à Douarnenez en France, en Bretagne. Bon. Et alors par contre pour le blé, vous aviez les grands moulins de Dakar, les grands moulins d'Abidjan. Qui était la propriété d'un franco-libanais, donc le groupe Mimran, qui possède aussi la sucrerie, compagnie sucrière du Sénégal, donc sur le fleuve, à Chertol. Mais il y a 2-3 ans, ces deux grands moulins et le sucre ont été vendus à un groupe marocain. Bon, peu importe. Mais en tout cas, là encore, disons que c'est la France qui a été... qui a fait la plus pression pour la mise en place des APE.
Mais quand on dit la France, en fait, parce que là, ce dont on peut se rendre compte, c'est que quand on parle des bananes de Côte d'Ivoire, ok, certes, les bananes, elles poussent en Côte d'Ivoire, mais donc les bananes réelles appartiennent à des entreprises françaises, une entreprise française, voire même, en fait, peut-être juste une famille, en fait. Et on parle de France, alors qu'en fait, bon, bah, non, peut-être que c'est pas l'État français, là, qui a des intérêts. C'est juste une famille qui a des capitaux et qui est propriétaire d'une entreprise et qui exploite de manière quasiment monopolistique tout un secteur de l'économie. Est-ce que c'est aussi cette configuration des choses qui peut expliquer le fait que les APE sont considérés par ces acteurs qui sont un peu les gagnants de ces politiques de libre-échange si on peut vraiment dire que c'est réellement du libre-échange, parce qu'on peut critiquer cette conception du libre-échange. En réalité, en fait, ce sont ces acteurs-là qui sont présents, qui défendent ces politiques et ces constructions de traités, ces constructions de partenariats commerciaux dans leur propre intérêt. Mais en fait, ces intérêts-là, c'est-à-dire que on peut avoir l'impression que l'Union européenne ne travaille que pour une poignée de personnes, quoi.
Oui, mais alors je dirais que je vais vous raconter une histoire. Bon, alors, dans ces APE, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les produits libéralisés plus fortement, c'est d'une part les céréales et d'autre part la poudre de lait. Alors les céréales, tous les céréales sauf le riz, mais l'Union européenne n'exporte pas de riz. Et donc le droit de douane actuel, il est terriblement bas, il est de 5%, de même que sur la poudre de lait. Alors, je vais vous dire comment ces droits de douane sont arrivés à ce niveau-là. Bon, au milieu des années 90, je faisais quelques cours au CIRES. C'est un centre de formation économique et sociale de Côte d'Ivoire. Mmh. Et j'avais eu vent à l'époque que la Côte d'Ivoire avait été chargée de préparer le tarif extérieur commun de l'UEMOA.
L'UEMOA, donc l'Union
économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui comprend essentiellement 7 pays francophones, plus la Guinée-Bissau.
Ok.
Alors, donc j'étais allé au ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, dans les grandes tours sur le plateau Abidjan, et j'avais demandé donc à rencontrer la personne qui préparait le tarif extérieur commun. Bon, il se trouve que c'était un agronome français. Et alors, donc, je l'ai rencontré, il m'a dit, bon, on a prévu un droit de douane de 5% sur les céréales, notamment le blé, mais aussi l'orge, etc., bon, le maïs, et un droit de douane de 5% aussi sur la poudre de lait. Mais je lui ai dit, mais vous vous rendez pas compte, si vous faites ça, mais vous allez rendre non compétitif et vous allez briser les possibilités d'un minimum d'autonomie alimentaire de l'Afrique de l'Ouest, parce que vont devenir les producteurs de mil, de sorgho, de fonio, de manioc, de bananes plantain, d'igname, etc. Si,
des céréales si... subventionnées arrivent et sont vendues moins cher
sur
le marché.
Et alors mais il me dit donc, mais mon pauvre monsieur, mais vous ne savez pas, mais les gens, les consommateurs sont pauvres, donc il faut qu'ils puissent se nourrir à plus bas prix.
Ah, c'est l'argument.
Voilà. Mmh. Alors que ça fasse... que ça détruise les revenus donc de 60% des actifs qui travaillent dans l'agriculture ou l'élevage, c'était une préoccupation qui ne m'avait pas, semble-t-il, affecté. Mais malheureusement, c'est la Côte d'Ivoire donc qui a imposé ces taux donc qui se sont imposés. Et le pire, c'est que donc dans les APE, la première chose qui va être complètement éliminé, c'est donc le droit de douane sur les céréales et sur la poudre de lait vont passer à zéro. Mmh. Donc il n'y aura plus aucune protection donc sur les importations de céréales. Bon, le riz restera à 10%, mais sur le donc voilà.
Mais en fait c'est désastreux parce que cette pensée là c'est une pensée à très court terme.
Absolument.
Parce que certes dans l'immédiat, un kilo de blé revient moins cher qu'un kilo de mil, d'accord, mais on détruit des filières, on détruit la capacité, on détruit la paysannerie, on détruit en fait à moyen et long terme dans une région du monde où 72% de la population est rurale, ça a des conséquences absolument catastrophiques. Et
mais bon, il faut aller plus loin parce que ça détruit pas simplement les agriculteurs et les éleveurs, ça détruit aussi, ça enracine les consommateurs dans un modèle de consommation alimentaire qui n'est pas durable non plus.
Qui n'est pas durable du tout.
Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, le problème, c'est que les importations... Bon, on ne produit pratiquement pas de blé en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria prétend qu'il en produit 60 000 tonnes, mais bon, je veux bien voir dans quelles conditions. Bon, mais ce ne sera pas, sans doute pas pour très longtemps, parce qu'avec le... avec le réchauffement climatique, ça sera encore plus difficile. Bon, mais en tout cas, l'Afrique de l'Ouest donc importe. Bon, j'ai plus le chiffre en tête, mais pas loin de 10 millions de tonnes de céréales sont importées en Afrique de l'Ouest chaque année. Bon, alors en ce qui concerne en particulier le blé, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 15 ans, tous les pays producteurs de blé au monde, les rendements stagnent, n'ont pas augmenté, bien que ces pays producteurs ne lésinent pas sur la quantité de pesticides et d'engrais chimiques, hein, et même s'ils ont renouvelé aussi un peu les semences, il y a un plafonnement, donc, et même en France, on n'a jamais retrouvé le plafonnement a eu lieu en 1988, hein, je crois, avec à peu près 78 quintaux à l'hectare. Bon, on n'a jamais retrouvé ça. Et donc, le problème, c'est que, avec le réchauffement climatique, tous les pays du Maghreb, du Mashrek et de l'Asie occidentale, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, etc., ce sont des pays où il n'y a pas, comme en Afrique subsaharienne, la possibilité de culture tropicale alternative. Hein, ces pays, à cause d'un climat plus aride, ne peuvent pas produire évidemment des tubercules, ne peuvent pas même produire du mil ou du sorgho, ils ont besoin donc de continuer à importer du blé et continueront à produire un minimum de pétrole et de gaz, ils auront les moyens de faire face à l'inexorable hausse du prix du blé à moyen et long terme. Mais comme en Afrique de l'Ouest, la consommation de blé, à la fois sous forme de pain, mais aussi sous forme de couscous, de pâtes alimentaires, etc., et de tout le blé qui rentre dans les importations de bière, enfin, etc., le malt, bon, et des autres produits, eh bien, la consommation de blé, essentiellement importé, augmente de l'ordre de 6% par an.
Donc, en Afrique de l'Ouest.
En Afrique de l'Ouest. À la fois donc parce que la consommation par tête augmente et aussi parce que la population augmente de 2,8% à peu près par an. Donc,
On est en train de fabriquer des habitudes alimentaires insoutenables, quoi.
Alors absolument, on est en train de fabriquer des habitudes alimentaires insoutenables et il faut savoir que c'est déjà l'Europe, et notamment c'est la France, qui a imposé le thieboudienne.
Vous pouvez réexpliquer un peu l'histoire du thieboudienne, qui est le plat traditionnel du Sénégal.
Alors, ce qui se passait, c'est que la France, donc, avait ses colonies d'Indochine. Hein, à l'époque, c'était le Laos, le Tonkin, la Cochinchine. Bon, ça, c'était déjà à la fin du 19e siècle. Et donc, les exportations de riz, mais le grain entier, il allait en France, hein, en métropole, comme on dit. Et puis, il restait les brisures. On ne savait pas trop que faire, quoi. Bon. Mais dans le même temps, il y avait les huileries Le Sieur, à Bordeaux notamment, qui manquaient d'arachides pour tourner. Et donc, la colonisation française donc a imposé au Sénégal de produire beaucoup moins de mil, de façon à remplacer la culture du mil plutôt par la culture de l'arachide, pour pouvoir donc approvisionner les huileries la métropole. Et donc en contrepartie donc on a pu se débarrasser des brisures de riz.
Les brisures de riz ont été exportées vers le Sénégal en tant que produit un petit peu de deuxième qualité, quoi.
Absolument.
Pour nourrir la population sénégalaise
qui n'avait plus suffisamment de mil, donc
qui n'avait plus suffisamment de mil
et de sorgho, voilà. Donc, ça, c'est un petit aparté, hein.
Non, mais c'est important de comprendre comment est-ce que tout ça, les habitudes se sont ancrées, façonnées, ont été construites. Et vous parliez tout à l'heure de l'insoutenabilité de la consommation de céréales et de blé, notamment. Et
parce que comme le prix va augmenter fortement, que la demande, disons, d'Afrique de l'Ouest aussi va augmenter fortement du fait de l'explosion démographique, avec la concurrence des autres pays, d'Asie occidentale et du Mashrek et du Maghreb qui n'auront pas ces cultures alternatives possibles, mais qui auront plus de moyens financiers de faire face à un prix du blé en hausse. Donc l'Afrique de l'Ouest ne pourra plus, l'Afrique subsaharienne en général, n'aura pas les moyens financiers de pouvoir continuer à importer du blé. Et donc tôt ou tard, il va falloir donc revenir à... Bon, mais pour cela encore, faut-il...
À des céréales locales et...
céréales locales et au tubercule, bon.
Ouais. Et
banane plantain, bon.
D'autant plus que, vous l'avez dit, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique dans le Sahel, enfin, les prévisions sont assez alarmantes et qu'on a intérêt à se préparer et faire une transition rapide et efficace vers la culture à nouveau de ce qui est local et de ce qui pousse bien et de se remettre à pratiquer l'agroforesterie et l'agroécologie dramatiquement. Et on n'a pas souligné le fait non plus que la culture du blé européen elle-même est problématique et en plus de ça complètement sur-subventionnée.
Oui, d'une part, alors oui, chaque tonne de blé qui est importée en Afrique, hein, ou partout ailleurs dans le monde, venant d'Europe, elle reçoit à peu près 68 euros par tonne. Hein. Donc, mais l'Union européenne dit non, moi je ne subventionne pas parce qu'elle joue sur les mots. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne et les États-Unis qui, en face à face, ont négocié les termes de l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce, hein, au début des années 90. Et ils se sont arrangés pour distinguer les subventions selon leur degré plus ou moins présumé de distorsion des échanges, c'est-à-dire leur effet de dumping éventuel. Mais là, c'est vraiment encore une supercherie terrible, quoi. L'Union européenne continue de dire non, je ne subventionne pas parce que avant 92, les subventions étaient essentiellement accordées au niveau de l'exportateur. Mais alors là, ce qu'il faut bien savoir, bon, c'est un peu technique, mais pas trop quand même, c'est que pourquoi l'Union européenne a complètement changé de politique agricole et pourquoi elle s'en est venue à subventionner fortement ses produits, non plus à l'exportation, mais en amont, c'est-à-dire aux producteurs. Donc, la définition du dumping dans l'accord du GATT, le GATT, c'est l'accord général sur le commerce et les droits de douane qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1947. Et dans cet accord, la définition du dumping, elle est tout à fait absurde, quoi. Bon, on dit il y a dumping lorsque l'on exporte à un prix inférieur au prix auquel le produit est vendu sur le marché intérieur. Donc, en fonction de sa définition, les États-Unis et l'Union européenne se sont dit « Ah, puisque c'est ça la définition du dumping, eh bien, comme les pays en développement où les agriculteurs représentent la majorité des actifs n'ont pas les moyens financiers de subventionner nos agriculteurs, eh bien, nous allons, donc, c'est ce qu'ils ont fait, nous allons baisser les prix et minimums garantis accordés aux agriculteurs et on va compenser cette baisse des prix par une subvention. » Et donc, effectivement, ce qui s'est passé pour les céréales, notamment, c'est qu'on a baissé 35% en 92 dans l'Union européenne le prix garanti des céréales, le prix minimum, et on en a rajouté une couche, on a à nouveau baissé de 15% en plus dans la réforme suivante de la PAC, de la politique agricole commune, en 99. Donc, au total, c'est à peu près 50%, donc on a baissé le prix minimum de 50%. Mmh. Et on a compensé les agriculteurs par des subventions. Mais pour pouvoir toucher ces subventions, il fallait quand même produire le céréales, quoi. Bon. Mais dans l'accord sur l'agriculture, l'article 13 disait que pendant une période de 9 ans, on ne pourrait pas remettre en cause, on ne pourrait pas attaquer les exportations de céréales de l'Union européenne si effectivement la subvention est accordée aux producteurs de céréales. Mais en 2003, donc c'est-à-dire 9 ans après 95, hein, puisque l'accord de l'OMC a été créé en 1995. Donc en 2003, l'Union européenne s'est dit que maintenant mes subventions là risquent d'être attaquées puisqu'il y avait une période pendant 9 ans dans laquelle elles ne pouvaient pas l'être. Donc elle s'est dit bon, je vais changer la manière dont j'accorde mes subventions. Je ne vais plus exiger que les agriculteurs produisent les céréales pour pouvoir continuer à les subventionner. C'est ce que l'on appelait le découplage. C'est-à-dire que les agriculteurs ont continué, après donc 2003, ont continué à percevoir les mêmes subventions qu'ils ont perçues en moyenne de 2000 à 2002, mais ils n'étaient pas obligés de produire pour les toucher. Ils continuaient à toucher ce qu'ils avaient déjà touché en moyenne, par hectare, sans être obligés de produire. La seule contrainte, c'est qu'il fallait que, au moins une fois par an, ils passent un coup de herse pour éviter que la terre ne devienne une friche et qu'il fallait que les terres restent cultivables. Voilà. Mais c'est une véritable mascarade parce que savez-vous que dans l'Union européenne, donc ceux qui gagnent le plus de subventions, la reine d'Angleterre, bien sûr, le prince de Monaco et même le premier club de foot britannique, là, le Manchester United, qui possède beaucoup de terres. Donc voilà, vous voyez, l'absurdité du système.
D'accord.
Tout ça pour dire que l'Union européenne, donc, du fait qu'elle a découplé elle accorde, les aides ne sont accordées sans qu'ils soient obligés de produire un produit particulier. Donc elle dit, il n'y a pas de subvention. Parce qu'on ne peut pas dire que ces aides-là peuvent être attribuées aux céréales ou à un autre produit. Et donc tout ça, tout ce qu'elle notifie à l'OMC, ben, c'est émis dans ce qu'on appelle la boîte verte, c'est-à-dire c'est des subventions qui ne sont pas considérées comme ayant un impact négatif sur le dumping.
Parce qu'on ne peut pas les relier directement à une production
particulière.
Donc c'est le découplage. Et l'autre mesure, ça a été donc d'utiliser un système de compensation. Dans un premier temps, ça a été de compenser la baisse du prix minimum garanti aux producteurs pour avoir un prix minimum finalement très très bas et compétitif avec les agriculteurs du Sud.
Avec le prix mondial, quoi, disons.
Avec le prix mondial, mais du coup, le marché mondial sur lequel se retrouvent les agriculteurs américains, européens et du Mali. Et donc, ça a été par ce premier mécanisme-là qu'ils ont réussi à contourner la loi anti-dumping.
Ils ont utilisé cette définition absurde du dumping dans le GATT, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à 4 reprises l'organe de règlement des différends de l'ONC.
Oui.
Et notamment en appel, l'organe d'appel.
Oui.
A défini à 4 reprises qu'il fallait, malgré cette définition formelle du GATT sur le dumping, l'article 6 du GATT, l'organe d'appel a dit non, il faut tenir compte de toutes les subventions, y compris les subventions internes, dont les subventions découplées pour définir le dumping. Mmh. Alors, le problème, c'est que...
C'est quand même tellement malhonnête, cette histoire. Enfin, c'est vraiment choquant.
Ah, non seulement c'est choquant, mais parmi les choses qu'il faut complètement réformer à l'OMC, c'est que le fait que, et ce à quoi s'emploie d'ailleurs Trump, hein, le président Trump, qui, comme vous le savez, a bloqué le fonctionnement normal de l'OMC. Depuis le 11 novembre dernier, donc il n'y a plus qu'un seul juge sur les 3 nécessaires pour pouvoir...
Cette cour d'appel de l'OMC.
Mais le drame, c'est que non seulement les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, en général les pays développés, refusent de considérer que les jugements de l'organe d'appel ont une valeur de précédent juridique, c'est-à-dire s'imposent dans les nouvelles procédures qui pourraient venir à l'OMC. Et donc le seul fait qu'à 4 reprises le tribunal d'appel de l'OMC ait déclaré qu'il fallait tenir compte aussi des subventions internes, y compris découplées dans le dumping, eh bien l'Union européenne et les États-Unis s'en moquent complètement, parce qu'elles ne se sentent pas tenues, elles ne reconnaissent pas une valeur de précédent juridique aux décisions de l'organe d'appel. C'est dramatique.
Donc, toute cette histoire d'APE, très concrètement, si on doit résumer le contenu, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette mise en œuvre là, de la suppression des droits de douane sur les produits originaires de l'Union européenne et sur les produits originaires de l'Afrique, des pays d'Afrique de l'Ouest? Très concrètement, en fait, comment est-ce que vous pourriez résumer la situation et à partir de là aussi développer ce que vous pensez être des alternatives viables ou d'autres mesures à prendre finalement
Il faut quand même parler un tout petit peu de la zone continentale de libre-échange africaine.
Oui, l'ASLECAF.
Parce que l'ASLECAF, il faut savoir que la Commission européenne s'est réjouie de la signature donc le 23 mars 2018. Donc à Nairobi, et ensuite du fait qu'elle a été ratifiée donc au mois de mars 2019 par 22 États, donc pour ce qui était nécessaire pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Bon, l'ASLECAF, donc c'est vraiment une absurdité totale. Bien sûr, les chefs d'État de l'Union africaine avaient en 2013 visé que en 2063, donc 50 ans plus tard, eh bien, l'Afrique soit devenue un continent auto-centré et ayant donc atteint un stade de développement donc équitable pour sa population. Bon, mais le problème, c'est que la SLECAF a mis la charrue avant les bœufs, en voulant mettre en œuvre ce marché commun qui est en soi très noble et très. Mais le problème, c'est que l'objectif n'est pas, en fait, malgré le discours, l'objectif n'est pas d'en faire une zone de libre-échange interne auto-centrée, libre-échange entre les États membres, mais d'en faire plutôt, malheureusement, de chercher à rivaliser avec les pays développés ou avec les pays émergents les plus développés, comme la Chine, par exemple, d'être encore plus compétitif que tous ces pays, sous prétexte que le niveau des salaires en moyenne est plus faible que dans ces pays, les pays du Nord ou les pays émergents, en oubliant quand même aussi que malgré ce niveau des salaires plus faible, la productivité par actif est beaucoup plus faible que le salaire, quoi. Bon. Donc, ce qui est prévu pour l'instant, c'est de réduire de 90% les droits de douane dans les échanges intra-africains. Mais le problème, c'est que 90%, donc, c'est à faire en principe en 5 ans pour les pays en développement, en 10 ans pour les pays les moins avancés. Il y a des possibilités, comment dirais-je, d'avoir des produits sensibles, mais qui ne doivent pas, sur 7% des lignes tarifaires, qui ne doivent pas dépasser 3% de la valeur totale des échanges. Bon, bref, c'est un peu... Bon, peu importe dans ces détails, mais ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, ni les offres tarifaires, ni les règles d'origine n'ont été encore négociées. C'est-à-dire que chaque pays, pour arriver à des droits de douane par produit qui soient homogènes, il faut évidemment se mettre d'accord sur un droit de douane particulier. À titre d'exemple, Le Maroc, lorsque sa récolte n'a pas été bonne, eh bien, il augmente le droit de douane sur le blé jusqu'à 130%. 130% donc de droit de douane à l'importation sur le blé, alors qu'il n'est que de 5% en Afrique de l'Ouest. Hein. Bon, donc, sur la poudre de lait écrémée, donc il est de 5% en Afrique de l'Ouest, il est de 60%.
Enrichi à l'huile de palme.
Oui, alors enrichi en plus à l'huile de palme, hein, bon, il est de 60% le droit de douane en Afrique de l'Est, hein, sur les importés, sur le lait écrémé. Donc, moyennant quoi, d'ailleurs, l'Afrique de l'Est est... Bon, pas toute l'Afrique de l'Est, elle avait été autosuffisante, maintenant elle ne l'est plus, mais l'Ouganda est exportateur net de produits laitiers, principalement vers le Kenya, parce que le Kenya était, jusqu'à 6-7 ans, était aussi exportateur net, maintenant il est déficitaire. Mais en tout cas, il y a d'énormes différences, et on voit pas très bien comment ils vont arriver à se mettre d'accord, donc sur... ça n'est pas crédible, quoi. Les régimes politiques sont tout à fait différents. Bon, les niveaux de vie sont tout à fait différents. Hein, le Burundi qui est le plus bas, ou les Seychelles qui est le plus haut. Donc, c'est vraiment un projet prématuré. En plus, pour l'instant, au niveau de la SLECAP, ils se sont pas mis d'accord encore sur le tarif à appliquer pour les produits venant du reste du monde. Hein. Mais l'idée, malheureusement, la CNUSED, donc la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ou la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, donc ont été à l'initiative de ce projet. C'est assez incompréhensible.
Ouais.
Ouais.
Non, mais en fait, enfin, de toute façon, je pense que il est important de rappeler que l'ASLECAF, c'est un projet qui se situe dans une idéologie très particulière, qui reprend tous les dogmes du libéralisme, du mercantilisme, de l'échange, dans un contexte où aujourd'hui, on sait qu'on peut plus s'amuser à importer, exporter de la même manière, ne serait-ce que pour des raisons énergétiques et climatiques. Enfin, c'est-à-dire que une partie du contre-argumentaire de tous ces projets, de toutes ces intégrations régionales commerciales mises en œuvre, la critique s'est concentrée sur l'aspect technique et sur les différences, l'harmonisation très compliquée entre tous les pays et voilà. Mais un niveau de critique hyper basique, ce serait tout simplement que chaque pays est quand même censé être un petit peu autonome, autosuffisant alimentairement, dans d'autres domaines, et qu'il va falloir un petit peu se recentrer, et puis qu'il va falloir aussi sortir très concrètement de cette idéologie de il faut commercer tous ensemble, alors que c'est pas du commerce très concrètement ce qu'on fait. Oui. Les APE.
Il faudrait d'abord, au minimum, renforcer les communautés économiques régionales, dont la CDAO. Hein. Alors, d'abord, il y a déjà beaucoup de problèmes dans la CDAO avant qu'on soit arrivé vraiment à... Parce que malgré qu'il y ait un tarif extérieur commun, il n'est pas appliqué, en fait. Hein, par exemple, le Nigeria ne l'applique pas. Enfin, il dit qu'il l'applique. Par exemple, sur le blé, bon, effectivement, il est 5%, mais il rajoute 60% de taxes supplémentaires par ailleurs, quoi. Donc, voilà.
Oui, chacun ses outils pour fonctionner et finalement préserver ses intérêts. Mais pour revenir sur donc le contenu des APE, oui. Un des arguments principaux qui a accompagné leur mise en œuvre, enfin qui a accompagné en tout cas la création de ces accords de partenariat, soi-disant, c'est le fait que donc les marchandises, les produits originaires de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique en général, pourront entrer sur le marché de l'Union européenne sans être taxés. Mais en partant du présupposé, du postulat que ce sont les tarifs douaniers qui font obstacle aux produits d'Afrique à l'exportation sur le territoire de l'Union européenne, alors que en réalité ce ne sont pas nécessairement les barrières douanières qui empêchent ces marchandises d'arriver sur ces marchés, mais c'est plutôt des normes sanitaires, de taille,
techniques,
des conventions, et puis principalement la réalité c'est que ce sont les subventions européennes de la PAC à la viande, le sucre, les céréales, le lait, etc. Donc, en fait, on se moque vraiment du monde, quoi.
Ben oui. Oui, mais bon, le drame, c'est que, bon, d'une part, il y a quand même un minimum d'organisations paysannes et la société civile africaine qui sont conscients de tout ça. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que les chefs d'État n'ont pas voulu écouter.
Les chefs d'État africains.
Les chefs d'État africains, donc, sont restés insensibles. Et alors, le drame, c'est de voir aussi, par exemple, que la dernière réunion de l'Assemblée paritaire Union européenne ACP concernant justement la renégociation de l'accord de Cotonou, hein, qui arrive à expiration le 28 février.
2020.
2020, voilà. Le communiqué du mois d'octobre dernier donc, disait que bien que l'Afrique était très contente de pouvoir renouveler la convention de Lomé qui a été si efficace pour le développement de l'Afrique.
Mais bien sûr.
C'est terrible quoi, ouais, de voir non. Ça, de voir le degré de...
C'est un niveau, on arrive à un niveau de cynisme qui est...
Alors, il y a le cynisme, mais il y a aussi le fait que les technocrates, les hauts fonctionnaires hein, des ministères africains, du commerce ou de l'agriculture, ont subi en permanence des sessions de lavage de cerveau, sous couvert de ce qu'on appelle la mise à niveau, dans lesquelles on leur a dit donc pas de développement sans libre-échange. Mmh. Et ça, ils ont bien compris ça.
Mmh. Oui, donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, les accords là, de partenariat économique, ils s'inscrivent dans la continuité directe de ce que l'on a vécu dans les années 80 avec les politiques d'ajustement structurel et que c'est la perpétuation sous de nouvelles formes d'un système de prédation, littéralement de prédation économique qui a, parce que là on a parlé beaucoup des choses techniques, mais très concrètement qui se traduit socialement par la dégradation des conditions de vie des populations et vous faites le lien entre la détérioration des économies locales qui est la conséquence directe de ces APE parce que l'importation, la baisse des tarifs douaniers, etc. Voilà, c'est la destruction des filières locales de production, c'est la destruction d'emplois, d'activités, en fait pas nécessairement d'emplois, mais en tout cas d'activités, de possibilités d'activités pour une immense partie des populations. Et en fait, ben, l'Union européenne, à travers les APE, est en train de jeter sur la route et dans la mer, sur les routes de la migration,
bras des Boko Haram et autres mouvements djihadistes, disons, ceux qui cherchent, qui ont besoin de nourrir leur famille, et qui disent, après tout, bon, ben, Boko Haram ou les autres, bon, j'aurai un salaire, quoi. Bon.
Parce qu'on s'entend, il est entendu aujourd'hui que, en tout cas, voilà, il est de bon ton de partager cette idée que ce qui est réellement le terreau du terrorisme, dans le Sahel notamment, c'est la pauvreté. Oui. Mais personne ne s'interroge réellement sur ce qui construit, enfin, ce qui fabrique la pauvreté.
Et oui, alors, bon, c'est la.
Et d'après vous, donc,
c'est. La politique néocoloniale complètement aveugle de l'Europe qui se tire une balle dans le pied en même temps parce que...
Oui, enfin, qui tire surtout une balle dans le pied des autres.
Hein. Oui, d'accord, mais elle-même aussi. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, et notamment la France, hein, ne se rend pas compte que, justement, qu'à la source de la montée du Front du Rassemblement National de Marine Le Pen et des autres mouvements dans d'autres pays aussi d'extrême droite, bon, on met en exergue la peur des immigrés, donc... tous les immigrés sont potentiellement vont créer des attentats en Europe, etc.
Donc, il y a des liens qui sont faits, des corrélations plus ou moins douteuses.
Oui, très douteuses, oui.
Et qui alimentent une xénophobie.
Et qui
justifient des politiques.
Des politiques dans lesquelles migratoires. Il y a une part croissante de l'aide, entre guillemets, de l'Union européenne, est consacrée aux politiques de retour en Afrique des immigrés qui n'ont pas obtenu le droit d'asile.
Oui, on ne sait pas assez, mais c'est vrai que peu de gens savent aujourd'hui qu'une grande partie du budget donc de l'aide publique au développement de l'Union européenne destinée aux pays d'Afrique est utilisée dans le cadre de la politique migratoire.
C'est complètement absurde. Alors que, quand je dis l'Union européenne se tire une balle dans le pied, parce que elle se rend pas compte que si dans un premier temps, elle acceptait de changer complètement l'accord de partenariat qui ne devienne plus un accord de partenariat économique, mais un accord de développement de l'Afrique, elle devrait reconnaître que l'Afrique doit nécessairement suivre utiliser les mêmes moyens qu'elle-même a utilisés pour arriver là où elle est.
Hein. C'est-à-dire plan Marshall et protectionnisme.
Et ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que donc, d'abord, souveraineté alimentaire et protection des industries naissantes hein, jusqu'à... Voilà, donc il faut vraiment...
avec prise en compte des nouvelles contraintes énergétiques, climatiques...
Et donc, la feuille de route n'est pas compliquée, hein, mais il manque la volonté politique, quoi. Et il faut absolument que la presse fasse connaître donc la réalité que les communications officielles camouflent, c'est-à-dire que, bon... que la France, hein, que l'Europe en général, est en train d'imposer ce que le professeur, l'ancien gouverneur central de la Banque centrale du Nigeria, donc professeur Soludo, qui était un économiste aussi, professeur d'économie, a dit donc avec les APE, donc l'Europe est en train de nous imposer un nouvel esclavage.
Ouais. Et d'ailleurs, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, lui, a refusé de signer.
Oui, heureusement qu'il a refusé. Bien qu'il ait, au dernier moment, qu'il ait accepté de signer l'ASLECAF, mais bon, l'ASLECAF, ça reste du folklore, hein, bon, mais ça mobilise aussi beaucoup de moyens financiers, malheureusement, et l'Europe est là pour... Parce que le problème, c'est qu'avec l'ASLECAF, si jamais ça venait à se mettre en œuvre, eh bien, le démantèlement des barrières douanières serait encore plus fort qu'avec les APE, hein, puisque c'est 90% donc, des droits de douane qui disparaîtraient donc, dans les échanges internes. Et sachant que l'Union européenne, avec ses banques, avec ses multinationales présentes dans tous les pays d'Afrique, c'est elle qui va en profiter davantage hein, de la baisse des droits de douane.
Pourquoi non ?
Eh bien, parce que ça lui sera beaucoup plus facile de pouvoir fermer ses guichets dans les pays les moins compétitifs de l'Afrique subsaharienne et notamment dans les pays sahéliens, hein, plutôt déconcentrés à Abidjan, à Lagos, éventuellement à Abuja. Bon. Et donc, parce que le problème, c'est qu'en plus, alors c'est valable aussi pour la CEDEAO, hein, pas plus dans les communautés économiques régionales que au niveau de la SLECAF, il n'est prévu de mécanisme de compensation de ceux qui vont perdre à ce libre-échange accru. Alors que c'est le seul point positif qu'on peut dire pour l'Afrique. L'exemple, disons, c'est
pour
l'Union européenne, le tiers de son budget, qui n'est pas élevé, 1% du budget, 1% du PIB, le tiers du budget sert à compenser les perdants liés à ce libre-échange accru donc au sein de l'Union européenne.
Ouais, rééquilibrer, en fait, c'est un peu un mécanisme de péréquation régionale qui permet donc de transférer une aide à des régions dans des pays d'Europe de l'Est, notamment, pour accompagner la hausse du niveau de vie.
La CEDEAO, si on ne veut pas que la CEDEAO avec les APE dont on n'a pas vraiment parlé, mais les APE intérimaires de Côte d'Ivoire et du Ghana, donc qui ont commencé à être mises en œuvre, eh bien c'est en train de désintégrer l'intégration de la CEDEAO parce que le Ghana et surtout la Côte d'Ivoire qui a déjà commencé à libéraliser, elle peut importer donc sans droits de douane les engrais, les tracteurs, les outils agricoles, les produits raffinés qui lui permettent donc d'être plus compétitive, y compris sur les produits agricoles qui, eux, ne sont pas soumis à des règles d'origine pour circuler au sein de la CEDEAO.
Donc ce sont vraiment des politiques qui visent une déstabilisation, des nouveaux équilibres et des solidarités qui sont en train de se créer sur le continent à l'échelle d'organisations comme la CEDEAO. Oui. Et ces politiques là ultralibérales soi-disant toujours de libre-échange puisqu'on n'est pas réellement dans le libre-échange.
Non, parce que le véritable libre-échange impose impose une libre circulation de tous les facteurs de production. Donc le capital mais aussi le travail, le capital, les services, tout doit être normalement donc hors tous les traités de libre-échange bilatéraux ne prennent pas en compte la libre circulation du travail, évidemment, sauf le travail hautement qualifié, évidemment, que l'Europe veut bien attirer. Hein, on leur fait pas trop de problèmes pour leur donner des cartes de séjour de longue durée. Hein, bon,
alors que les talents qui sont formés par des pays et qui sont ensuite volés et qui participent plutôt à la.
Mais c'est vraiment dramatique. Hein, c'est vrai que parce qu'en plus il y a ce vrai effet là-dessus. Bon. Le dérèglement climatique, hein, et puis la très forte pression démographique, il y a une inconscience terrible, quoi, et je ne sais pas ce que va donner la réunion de la France-Afrique au mois d'avril à Bordeaux, là. Bon, donc, pas très bien, hein.
Et donc l'Union européenne met tous les moyens, en tout cas une certaine Union européenne met tous les moyens en œuvre pour accélérer le démantèlement et le démantèlement donc des barrières douanières en Afrique et donc vraiment approfondir l'œuvre de prédation dont le continent est vraiment la cible depuis un certain temps quand même.
Siècles,
ouais. Ça fait 5 siècles. Alors vous, Jacques Berthelot, à partir de là, et peut-être pour terminer, c'est quoi un peu les alternatives et d'autres politiques d'échange sont possibles, sont imaginables, et donc et puis d'autres politiques agricoles aussi, quoi.
Oui, mais bon, c'est la seule contrainte, c'est la volonté politique des responsables politiques actuels de l'Afrique, quoi. Bon, il faudrait que peut-être par un effort de diffusion assez large de toutes les causes profondes de la paupérisation de l'Afrique, qui attaque notamment la majeure partie de la population qui est donc représentée par les agriculteurs, les éleveurs, bon, les pêcheurs. Cette majorité donc ne peut pas se développer parce qu'elle est mise en concurrence, qu'elle ne peut pas, une concurrence tout à fait déloyale donc avec les productions exportées par l'Union européenne. Bon, évidemment, il y a d'autres des importations qui viennent d'autres régions du monde, mais l'Union européenne quand même représente à peu près 40% des importations de l'Afrique de l'Ouest, dans tous les domaines. Bon, et pour certains produits, bon, c'est davantage. Ce qu'il faut mettre en œuvre, évidemment, c'est la volonté politique vraiment de prendre au sérieux la nécessité de redynamiser l'agriculture, l'agriculture, la pêche. Et pour cela, donc, il faut absolument assurer des prix rémunérateurs aux agriculteurs, des prix rémunérateurs et stables dans le temps, de façon donc à ce qu'ils puissent aussi trouver des crédits donc que les banques acceptent de leur prêter pour qu'ils puissent augmenter leur production, à la fois en intensifiant si possible de façon agroécologique. Et donc, mais qui ont besoin quand même aussi d'acquérir du matériel. Et donc, pour cela, donc, il faut mettre en place un système de protection très efficace qui a été celui utilisé justement par l'Union européenne. C'est-à-dire, non pas des droits de douane ad valorem, c'est-à-dire un pourcentage de la valeur à l'importation, mais un droit qui varie, qui représente l'écart entre le produit, la valeur du produit à l'importation, arrivé au port ou à l'aéroport, et le prix minimum que l'on entend assurer aux agriculteurs. Donc cet écart varie en fonction du prix à l'importation, qui est fonction de l'origine du produit. Mais il faut que les agriculteurs soient assurés donc qu'aucun produit ne pourra pénétrer sur le territoire à un prix inférieur au prix qui pour eux serait un minimum nécessaire pour assurer la rentabilité de leur production. Alors évidemment, les agriculteurs ne peuvent pas tout financer, il faut qu'au niveau de l'amont et de l'aval, alors de l'aval et de l'amont, c'est d'abord d'avoir des routes, c'est d'avoir des moyens de transport, de ne pas subir les prélèvements illicites de toutes les forces armées, les douanes, les polices, etc., qui quelquefois peuvent arriver même à des prélèvements supérieurs aux droits de douane. Donc il faut une politique évidemment de vulgarisation qui soit davantage axé sur l'agroécologie, effectivement. Il faut reformer aussi les techniciens qui ont été plutôt formés à la nécessité qui est promue d'ailleurs encore par la Banque africaine de développement.
Par l'ABAD.
De faire comme encore malheureusement.
Agriculture productiviste. Intensive, catastrophique.
Catastrophique, incidemment d'ailleurs. Au Sénégal, on importe beaucoup de pommes.
D'Afrique du Sud, non ?
Non, de France surtout.
Ah bon ?
Oui, je crois.
Ah, on met d'Afrique du Sud.
Ah bon, mais beaucoup de France aussi. Okay. Mais qui subissent un minimum de 12 traitements pesticides. Il faut mieux faire peler les pommes avant de les croquer. Bref. Donc, assurer des prix minimums aux agriculteurs. Mais pour ne pas pénaliser la population pauvre des consommateurs, parce qu'il faut que ces prix minimums, on les programme sur une période de 5 à 10 ans, relever progressivement donc les prix à l'entrée, donc en mettant un système de prélèvement variable. Mais en même temps, pour ne pas provoquer des émeutes des consommateurs pauvres qui ne pourraient plus se nourrir correctement, il faut utiliser aussi un autre exemple très efficace donné notamment par l'Inde. En Inde, c'est les deux tiers de la population qui reçoit, donc qui peut acheter le blé et le riz à un prix très faible, qui est financé donc par le gouvernement indien. Mais bon, une politique d'ailleurs qui est condamnée, qui est dénoncée par les États-Unis, qui sont pourtant de très loin celui qui
subventionne le plus leur agriculture.
Non seulement ça, mais qui a un programme d'aide alimentaire intérieure qui est de l'ordre de 110 milliards d'euros, de dollars par an. Mmh. Hein, bon, ça permet donc à 20% à peu près, un peu plus de 20% des citoyens américains, donc de pouvoir acheter à très bas prix, donc bon, la nourriture de base, quoi, voilà. Mmh. Et donc c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place. Alors on dirait que oui, mais alors il y a un programme actuel donc de stock public de sécurité alimentaire de l'Afrique de l'Ouest, mais qui est très très faible, quoi. C'est pas ça
qui... Oui, qui permettra pas de garantir quoi que ce soit.
Il faut viser beaucoup plus que ça. Oui. Mais pour ça, donc, il faut mettre en œuvre donc un programme qui pourrait être financé par l'AID, donc de la filiale de la Banque mondiale, qui fait des prêts à très long terme, hein, jusqu'à 35 à 40 ans. Mm-hmm. C'est ce qu'elle avait fait d'ailleurs il y a longtemps, au début, pour financer des infrastructures lourdes, hein, des barrages, des choses comme ça. Mais elle peut aussi le faire là-dessus, avec un différé d'amortissement de 10 ans et un taux d'intérêt très faible.
Quoi. Bref, donc il y a des mécanismes et des outils techniques qu'on peut tout à fait utiliser.
J'ai pas fait d'estimation, mais de l'ordre de 4 milliards d'euros pour l'Afrique de l'Ouest par an, oui.
Ouais, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout.
Oui, c'est rien du tout, oui. Mais ça permettrait quand même, disons, donc, de faire en sorte que, en attendant qu'avec des prix rémunérateurs, donc sur une période peut-être de 10 ans, les agriculteurs soient arrivés donc à une meilleure productivité et à améliorer leur rendement, etc. Donc, ils pourraient retrouver les rendements moyens du mil et du sorgho de l'Éthiopie, par exemple, qui sont beaucoup très supérieurs à ceux de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, donc, on pourrait abaisser les prix à la consommation. Et bon, voilà, en tout cas, c'est...
Ah ouais, sur les aliments de base et...
Sur les aliments de base, donc, qu'on puisse donc, se procurer dans les... disons dans des boutiques agréées,
des coopératives de consommateurs même. Non, mais tout à fait. Donc en fait, c'est important toujours de bien rappeler que des alternatives sont possibles et qu'on peut imaginer tout à fait d'autres outils de transition vers autre chose que l'ultralibéralisme et un marché commun comme ça qui s'ouvrirait sans réfléchir à des produits subventionnés, transformés, qui sont le produit en plus d'une.
Si l'Union européenne avait un peu de regarder un peu plus loin que
son intérêt à court terme.
Du business qui ne voit qu'à court terme, hein, l'argent est aveugle, hein, bon, elle comprendrait qu'elle devrait aller dans ce sens-là, de façon à pouvoir justement, à moyen et long terme, exporter des produits à haute valeur ajoutée, des services à haute valeur ajoutée, dont l'Afrique, à ce moment-là, aura besoin. Mais pour l'instant, en tout cas, arrêter d'exporter des produits alimentaires de base.
On verra encore pour la suite, mais... Ce qui est peut-être important vraiment à retenir, c'est le fait que ces APE, si on résume, ce sont des instruments de déstabilisation des économies qui font quasiment le même effet qu'une guerre ou autre, termes de déstructuration de filières, de transformation de...
Qui tue les jeunes privés d'avenir.
C'est ici, ça, donc, c'est ça. Concrètement, on fabrique la migration, qui devient le grand sujet de l'Union européenne. Après la migration, tout en rappelant que 80% des migrations d'Afrique subsaharienne se font sur le continent.
Oui, bien sûr. Voilà. Et on fabrique en même temps donc les dérives djihadistes, quoi. Donc qui sont pas non plus une solution, quoi. Ça, c'est vraiment. Mais
tout ça, c'est construit. Hein? Tout cela, c'est de la construction, quoi.
Et oui, c'est de la destruction. Je dirais.
Merci beaucoup, Jacques Berthelot.
Merci Marie. Ok.
C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous. Si vous voulez creuser des sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne désormais chaque épisode et être tenu au courant de nos événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écouter sur les plateformes amies comme R22.fr ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album « Parler d'années de la Terre » de Rossé, et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Ampateba. À bientôt !